Libre et égaux.
Auditeurice de Nantes ou d'ailleurs, bienvenue et bonjour. Bienvenue sur la planète de la Ligue des droits humains, section Nantes. Autrement dit, la LDH nantaise. Bienvenue sur Jet et bienvenue au bar Personne. Mais pourquoi le bar Personne, me direz-vous ? Mais parce que c'est ici que nous enregistrons tous les mois la chronique de la LDH Nantes. Merci donc à Personne. Pour cette chronique, nous allons échanger sur les droits des femmes. Vous le savez, au mois de mars, le 8, a eu lieu la journée de défense des droits des femmes. Mais défendre les droits, ce n'est pas l'histoire d'une journée. Pour cette raison, Fabienne, Martine et Malika sont aujourd'hui avec nous. Bonjour Malika, Martine et Fabienne.
Bonjour.
Bonjour.
Bonsoir.
Et elles ne sont pas seules. Bonjour à Élodie et Emmanuel. Bonjour.
Bonjour.
Qui questionne et s'occupe de la technique. Commençons par faire un petit rappel de l'action du groupe de travail en présence. Sophie, Martine, Malika et avant elles, Solange et Emmanuel ont participé et participent à l'organisation d'événements pour le 28 septembre, défense du droit à l'avortement, le 25 novembre, journée de désignation des violences faites aux femmes et des violences sexistes, et le 8 mars, journée de défense des droits des femmes, nées femmes ou devenues femmes. Elles ont aussi organisé des débats sur la prostitution, la transition de genre et plus récemment sur l'avortement.
Alors déjà, je voudrais donc nous accueillons Malika. Malika, tu viens d'arriver à la section nantaise, à la LDH, et tu viens d'intégrer le groupe Droits des Femmes. Pourquoi tu as eu envie d'intégrer ce groupe-là spécifiquement ?
Je suis arrivée à la LDH en 2023 quand Gérard Darmanin a eu la mauvaise idée de vouloir dissoudre la LDH, alors que la LDH faisait juste son boulot, qui était de défendre les citoyens par rapport à des problèmes de violence policière. Et moi, je suis féministe dans l'âme, depuis que je suis née, on va dire. Et pour moi, quand on s'engage dans une association, il faut le faire avec son cœur. Et moi, c'est les droits des femmes.
Et tu avais déjà milité avant auprès d'associations de défense des droits des femmes ?
Oui, mais pas des associations aussi grandes et puissantes que la LDH. Et moi, je trouve ça très rassurant à l'heure actuelle de rejoindre une association qui a une assise et une ancienneté, parce que les droits les plus fondamentaux sont attaqués aujourd'hui. Donc je continue à militer dans des petites associations, des petits collectifs, mais pour moi, c'est important de rejoindre ces grandes associations qui ont, on va dire, une puissance de frappe.
Merci. Et toi, Martine, qu'est-ce qui t'a motivée ?
Alors, pour rentrer à la LDH, ça fait déjà pas mal de temps que j'y suis. Il faut savoir que j'ai toujours été assez militante, au moins au niveau syndical, quand je travaillais. Maintenant que je ne travaille plus, j'avais envie d'être impliquée dans une institution qui est politique, mais pas encartée, mais qui a des valeurs très claires. Et voilà, donc la LDH me convenait, bien que j'ai eu quand même au départ l'impression qu'il y avait tellement de boulot, tellement de choses à faire, que c'était immense. Et j'avoue que quand j'ai démarré il y a, je sais pas, 5, 6 ou 7 ans, je me rappelle même plus, j'ai été un peu refroidie par la masse de boulot, en fait. Et voilà, donc je suis revenue par un tout petit bout, puis qui vaut ce qui vaut, c'est le groupe Droits des Femmes.
Surtout que c'est vrai qu'il faut préciser qu'à la LDH, il y a le groupe de travail, il y a les groupes de travail discrimination, logement, prison, il y a énormément de groupes de travail. Donc, en tout cas, si des nouvelles personnes, des nouveaux adhérents voulaient venir, ils savent exactement, ils peuvent choisir quelque chose qui les anime particulièrement. Donc vous, c'était le groupe de travail droits des femmes. Alors, quelles actions sont menées par ce groupe de travail ?
Alors, l'action principale qui a été menée cette année, c'est la conférence gesticulée qu'on a fait venir le 7 mars à la Maison des Haubans à Malakoff. Donc ça, c'était l'action du début de cette année. On verra ce qu'il y a par la suite.
Et c'était dans le cadre de la semaine d'éducation contre les discriminations, je crois.
Tout à fait, bien sûr. Et en fait, j'avais vu ce spectacle. Il se trouve que je m'intéresse au spectacle de près, de loin et de près. Et j'avais vu ce spectacle chez des amis et j'avais trouvé que c'était super intéressant. Et c'est tellement relié à la question féminine, puisque ça s'appelle Histoire d'un secret de Polichinelle et qu'il est question de l'avortement et du droit à l'avortement et de comment l'avortement est vécu par les femmes. Qu'est-ce qu'il y avait avant la loi Simone Veil? Qu'est-ce qu'il y a depuis? C'est un énorme boulot qu'elle a fait, cette femme. Je suis allée la trouver après le spectacle et je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresserait d'intervenir dans le cadre de la LDH à Nantes? Et voilà, et on a cherché une date. J'ai anticipé sur le fait que c'était possible en me disant, je vais présenter ça au bureau et à la section de la LDH Nantes et on verra bien ce qu'ils en disent. Et bien sûr, d'abord, j'en ai parlé avec Sophie, qui était ma comparse de l'époque et qui l'est toujours. Et pour savoir si ça lui convenait, et voilà, et ça s'est passé comme ça.
D'accord. Alors, comment ça s'est... C'est une conférence gesticulée. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer déjà, pour nos auditrices, qu'est-ce qu'une conférence gesticulée?
Alors, la jeune femme qui présente le spectacle de conférence gesticulée s'appelle Jeanne Aymard. Elle part de son expérience personnelle. Donc, c'est ce qu'on appelle le show, en fait, les événements qu'elle a vécu elle-même, puisqu'elle est passée par la question de l'avortement. Et elle est journaliste et elle a fait un énorme boulot pour savoir tout ce qui s'était passé depuis l'année où il y a eu la loi Veil, qu'est-ce qu'il y avait avant. Et puis surtout, elle a fait aussi un énorme boulot pour savoir comment les femmes vivaient ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on leur envoie dans la société? Qu'est-ce qu'on leur envoie dans les médias? Qu'est-ce qu'on leur envoie dans les sitcoms? Qu'est-ce qu'on leur envoie dans... comment est-ce qu'on fait en sorte que les femmes soient encore culpabilisées et voire même empêchées d'avoir droit à cet avortement?
Alors, c'est dans la Constitution depuis 2024 maintenant. En quoi c'était important pour toi, pour la LDH, de faire un spectacle sur l'avortement? Qu'est-ce que ça vient raconter encore maintenant? Pourquoi c'est important?
Je crois que ce que ça vient raconter, c'est que les choses ne sont jamais acquises et que il y a beau avoir la question de l'avortement dans la Constitution, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des associations qui sont contre et des militants qui sont contre. Et voilà, donc la question elle reste toujours la même, quoi. À quel moment les femmes sont libres de leur choix, libres de leur corps, et à quel moment elles ont le droit de choisir leur vie, en fait?
Ou routière, ou cablière, infirmière, jardinière, pâtissière, tapissière, biscuitière, joaillière, téléphoniste, machiniste, au fleuriste, au choriste, aux urbanistes, aux ébénistes, aux pépiniéristes, aux satiristes, aux coloristes, aux courriéristes, aux chimistes, aux hygiénistes, aux trompettistes, aux trapézistes. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler.
Alors revenons à cette conférence gesticulée qui a eu lieu à la maison des Haubans, donc à Malakoff, la maison de quartier. Donc il y a eu une soixantaine de personnes, je crois. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a eu à peu près un quart, dans le public, de ligueurs et de ligueuses. Et qu'il y a eu aussi quand même à peu près une moitié du public qui est venu pour la conférence, mais sans forcément être sensibilisé ou connaître les combats de la LDH ou de ce spectacle.
Donc un tiers qui est venu par des biais qu'on avait fait passer entre les tracts, la petite radio que j'ai fait à Prune Radio et le bouche-à-oreille. Et donc on ne sait pas par où ils viennent, ces gens-là. C'est ça qui est intéressant.
Oui, et c'est intéressant aussi de dire que c'est aussi tout ça le travail dans le groupe femmes. C'est pas uniquement soumettre au bureau de proposer un spectacle, c'est-à-dire qu'après, faut se mettre en accord avec la maison de quartier, enfin, faut trouver un lieu de jeu, tu es allé tracter, voilà, il y a tout un travail, aller dans les radios, et c'est beaucoup d'heures de bénévolat.
Bénévolat, je n'appellerai pas ça comme ça. Beaucoup d'heures de militantisme, on va dire. Ouais. Plutôt, pour moi, c'est bénévolat, c'est plus cool au sens où tu n'as pas une portée politique derrière. Mais quand tu vas porter un tract dans un commerce, tu ne sais pas forcément comment tu vas être reçu.
Oui.
Donc, ceci dit, j'étais très, très bien reçue à Malakoff. En particulier au bureau de tabac, je ne sais pas s'ils nous écoutent, mais il y a des gens charmants, parce que j'étais un peu à l'arrache, au sens où je me dis, bon, j'y vais, j'ai une quarantaine de tracts à distribuer, je fais quoi ? Ben, je rentre et puis je verrai bien ce qu'on me dit, quoi. Bon, voilà.
Et toi, Malika, donc, tu étais à la conférence gesticulée, est-ce que tu peux nous en dire deux mots ?
Alors moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'en fait, elle part de son expérience personnelle en tant que femme, de l'avortement, et que vraiment on voit que à travers ce sujet que le personnel est politique, et que à travers cette expérience de vouloir avorter, en fait elle s'est confrontée à, alors que c'est une expérience très récente, à tout le sexisme, aux représentations, aux injonctions qu'on fait aux femmes et à leur corps et sur la question de la procréation, de toutes ces injonctions, de toutes ces représentations qui existent encore, et aussi des freins qui font que certaines femmes ne peuvent pas avorter. Du coup, à partir de son histoire personnelle, elle tisse une histoire politique de l'avortement qui n'est pas terminée, qui aujourd'hui encore est remis en question.
Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour de la réception ? Comment ça s'est déroulé ? Je crois qu'il y a eu un petit goûter après, à l'issue de la représentation.
Alors, on ne se sentait pas de faire un débat, parce qu'il faut organiser. Je pense qu'un débat, ça s'organise. Par contre, on avait envie que les gens ne partent pas tout de suite. Donc, on a eu l'idée de ce petit goûter à la fin. Ça fait que les gens sont restés une demi-heure, à peu près. Et il y a eu beaucoup d'échanges. Et il y avait aussi des vieux briscards de la LDH qui avaient des souvenirs à échanger sur ces questions de l'avortement avant la loi Veil et tout ça. Et c'était très intéressant. Et en fait, j'avais déjà remarqué en ayant vu le spectacle la première fois, en juin, que les gens qui voient ce spectacle-là, ils n'ont pas envie de partir après. Donc ça, je voulais qu'on en profite, et j'étais contente parce que je pense que ça s'est fait, quoi. Il y a eu les gens ont parlé entre eux, et c'est ça qui compte. Et c'est quoi la LDH ? C'est aussi faire en sorte que les gens se sentent responsables et optimistes sur ce qu'on peut faire pour faire bouger les choses et pour faire en sorte que nos droits et nos valeurs s'expriment et soient échangés. Voilà.
Alors, tu me proposes une transition toute faite. Tu parlais des vieux briscards de la LDH. Alors, remontons, c'est pas pour parler de toi, Fabienne. Non, c'est pour remonter dans le temps. La LDH a-t-elle toujours défendu les droits des femmes ? Parce que LDH, c'est Ligue des droits de l'homme.
Oui, peut-être bientôt aussi Ligue des droits humains, sait-on jamais. Ben oui, 130 ans quand même. 1898, l'affaire Dreyfus, j'aime bien rappeler ça, une vieille association de 130 ans. Dans son contexte, en 1898 et au tout début du XXe siècle, c'était pas si ridicule parce que les statuts de l'association, dès le départ, intégraient les femmes qui étaient admises à adhérer comme les hommes. C'est pas rien quand même.
Toutefois, elles n'étaient pas très nombreuses, je
voilà,
crois.
Voilà, ça veut pas dire qu'il n'y avait pas de plafond de verre quand même déjà là. Parce qu'il n'y avait pas de femmes dans les instances, le comité qu'on appelle national maintenant, qui s'appelait à l'époque le comité central, il n'y avait pas de femmes. Il y avait entre une et trois femmes, on va dire, jusqu'en 1945. Il y a même un militant, j'avais trouvé cette anecdote croustillante, un militant qui avait dit à une époque, quand il a été question de faire entrer trois femmes au comité central, qui a dit « Trois ? Mais c'est beaucoup !» Ils étaient 61 à l'époque. Donc c'est quand même, jusqu'en 45, on va dire que c'était assez peu à l'interne. Mais les actions... Bon, les actions en termes de droit, notamment les actions phares, c'était par exemple de lutter contre la police des mœurs. Donc ça, c'était intéressant quand même de se dire, à une époque, dans le cadre de la prostitution, eh bien, la LDH menait des actions contre la police des mœurs.
Puis arrive donc le droit de vote des femmes.
Voilà, là... 45. Et là, du coup, Bah, ça a changé un petit peu parce que finalement, bah, le fait que les femmes deviennent citoyennes, ça a dû rassurer un petit peu tout le monde. Et donc, il y a eu de plus en plus de femmes, y compris présidentes de section, par exemple, parce que ça, c'était pas le cas non plus au départ. Dès la création du planning, hein, l'ALDH a été en soutien de toutes les actions du planning familial et en soutien des médecins qui pratiquaient l'IVG. Peut-être le point d'orgue, c'était 1990, quoi, quasiment 100 ans après la naissance de l'association, puisque le thème du congrès, c'était les femmes et les droits.
Et ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on a commencé avec très peu de femmes et on peut dire que là maintenant, par exemple au bureau de la section nantaise, je crois qu'il y a plus de femmes que d'hommes au bureau.
Eh oui,
et que c'est pareil au national.
Voilà, alors si on prend le bureau des 29 membres aujourd'hui, oui, il y a une majorité de femmes. Et le bureau administratif, c'est-à-dire présidente d'honneur, secrétaire femme, secrétaire adjointe femme, un trésorier, bah, l'argent ça reste pour les mecs, non c'est une blague, jusqu'à l'année dernière c'était une femme, et la trésorière adjointe, donc on est 5 femmes sur 6 dans le bureau administratif. Oui.
Regardez-la danser quand elle s'approche du ring. La boxeuse amoureuse, la boxeuse amoureuse. Sur ses gants dorés, des traces de sang, de larmes et de sueur. Et de sang, et de sang. Elle esquive les coups. La boxeuse amoureuse. Elle absorbe tout. La boxeuse amoureuse. Boum boum les uppercuts, uppercute son visage. Mais jamais elle ne cesse de danser, de danser. Tomber ce n'est rien, puisqu'elle se relève, un sourire sur les lèvres, un sourire sur les lèvres. Oh,
Alors, au niveau du conseil régional, on peut dire que depuis que Christelle Morancet est arrivée, donc il y a eu un certain nombre de coupes, et notamment pour les associations de défense des femmes. La liste s'allonge hein, des associations affectées par les économies budgétaires qui sont envisagées par la présidente de région. Ce qu'on peut dire quand même pour donner une petite idée aux gens, c'est que ces coupes budgétaires, ces suppressions de ces financements, ça représente l'annulation pure et simple d'actions concrètes, comme par exemple 33 séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle qui sont menées par le planning familial 44, ainsi que les financements d'outils pédagogiques. Ce sont aussi 250 heures d'écoute en moins auprès des femmes victimes de violences qui sont assurées par Solidarité Femmes Loire-Atlantique. Ce sont encore 255 permanences d'information et de prévention en matière de droits des femmes assurées dans 15 communes par le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles. Et ce sont encore 15 sessions menées dans le cadre du programme commun 3 réseaux, des actions de prévention auprès des lycéennes, des lycéens, autour du droit des femmes et de la prévention contre les violences sexistes et sexuelles. Donc supprimer ces fonds, c'est supprimer des actions et c'est aussi supprimer des emplois. Donc on voit que tout ça est quand même très politique. Et je rappelle que le communiqué de presse de la LDH du 8 mars écrivait « Les extrêmes droites sont les ennemis des droits des femmes ». Donc parlons un petit peu des extrêmes droites. On a eu les élections qui sont récente. À la flèche, dans les Pays de la Loire, le Rassemblement national est passé. Dans la plupart des villes, ce n'est pas le cas, mais il y a de plus en plus de membres du Rassemblement national qui se retrouvent dans les conseils municipaux. Quels sont les risques ?
Oui, la flèche, c'est déjà une ville de trop, hein, c'est vrai. Ça y est, ils ont mis un pied dans l'Ouest, ce qu'on craignait. Les risques. Ben, le premier risque, il est, si on reste sur le purement politique, c'est les sénatoriales en septembre. Les sénateurs sont renouvelés, vous savez, par tiers. Et donc là, on renouvelle ceux qui ont été élus en 2020. Et ils sont élus par les conseillers municipaux, les conseillers départementaux, les conseillers régionaux, les parlementaires. Mais là, ça veut dire que des sénateurs vont être potentiellement du Rassemblement national, vont pouvoir siéger élus par des membres du Rassemblement national. Ça veut dire qu'au niveau législatif, ils entrent vraiment, ils ont déjà des pieds largement, ils sont bien installés à l'Assemblée nationale et les voilà dans la grande chambre.
Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de mesures qui ont été notamment, ou même de lois qui ont été votées par le Rassemblement national
Le titre que tu viens de rappeler là, sur les extrêmes droites, de toute façon, elles ne protégeront jamais les droits des femmes. Pour autant, il y a une confusion. Elles entretiennent une confusion. C'est-à-dire qu'il y a, un affichage électoraliste, purement électoraliste. Bardella a dit à plusieurs reprises, hein, mais nous, quand on sera au pouvoir, il l'a dit en 2024, si je suis Premier ministre, je ferai attention aux libertés des femmes, etc. Donc il y a une espèce d'affichage propre. Hein, on fera comme tout le monde, on protégera le droit des femmes. Ça se fait. Voilà, ça, c'est l'affichage. Mais après, il y a, comme tu dis, les votes. Parce que là, du coup, on n'est plus dans le déclaratif, on est dans l'acte, dans le fait. Et là, c'est observable. Alors, il y en a tellement. Eh bien, le RN au Parlement, comme au Parlement européen, comme à l'Assemblée nationale en France, hein, a voté contre la loi de 2023, par exemple, pour l'accès aux femmes aux responsabilités de la vie publique, a voté contre les résolutions sur les écarts de salaire en 2020, a voté contre la convention d'Istanbul sur les violences faites aux femmes, a voté contre la formation sur le harcèlement au Parlement européen, et on peut en ajouter. Donc là, c'est pas, ils peuvent toujours afficher leurs besoins ou une forme d'idée, quoi. Ils peuvent afficher ces idées de « on va défendre les femmes, nous aussi ». Non, non. Déjà, sur les places de pouvoir qu'ils ont aujourd'hui, ils font le contraire. Et puis, il y a la troisième patte qui rend notre combat contre les extrêmes droites très complexe, notamment sur le droit des femmes. C'est tous les mouvements masculinistes et virilistes aujourd'hui
qui alimente sur les réseaux
droite,
sociaux,
voilà, les influenceurs qui balancent des qui sont très jeunes parfois. Et puis les médias Bolloré, quoi. On est qui ne se gênent pas pour balancer des trucs. Enfin, moi, je voudrais qu'on redise cette phrase. Non, mais une phrase d'Éric Zemmour. Les femmes ont une forme intellectuelle différente de celle des hommes. Hein, elles ont une pensée. Les grands hommes, les grands génies sont des hommes. Les grands génies sont des hommes. C'est intéressant, ça, comme...
Parole d'Éric Zemmour.
Donc, on est en plein dans le combat des idées, là. On n'est plus... Alors, il y a les votes, là, c'est factuel. Et dans le combat des idées, quand on casse un peu la vitrine, eh ben derrière, c'est ça, parce que tout ça s'alimente. Hein. C'est les trumpistes et autres. Et le plus grave quand même, c'est que ce pseudo-combat pour les femmes est en vérité un combat réel idéologique raciste. Parce que ça permet de dire, regardez ces pauvres Iraniennes et ces pauvres Afghanes aujourd'hui, obligées de porter le voile, interdites d'aller à l'école, etc. Donc nous, dans notre pays, en France, là, nous allons protéger les femmes de ces monstres musulmans. Donc derrière ce pseudo-combat féministe, il y a un vrai combat islamophobe. Ça, le danger est énorme. Tous les véhicules sont bons.
Et on peut rappeler que les violences physiques sont pour plus de la moitié des victimes subies dans la sphère familiale. Voilà, on peut aussi donner des chiffres comme 132 300 victimes de violences sexuelles, dont plus de la moitié, 58% sont mineures. Et encore une fois, là aussi, les viols, c'est les amis, la sphère familiale, voilà. Les rencontres dans la rue.
Le Némésis avait affiché à l'occasion d'une de ces manifestations... étrangers violeurs dehors, mais non, c'est exactement ce que tu viens de dire. Les agressions sexuelles se font dans le milieu familial. Oui,
le violeur est dedans, il n'est pas c'est dehors.
Ça. Exactement.
C'est ça que ça veut dire. Mm-hmm.
Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Quel combat encore à mener, Fabienne?
Il y en a un paquet.
Ouais.
Il y en a un paquet. J'avais envie de parler du bouquin de Claire Hédon. Deux minutes, j'ai le temps, peut-être. Deux minutes. La République des droits. Claire Hédon, elle dit « Le langage façonne notre rapport au droit. » C'est vrai. Hein. Et en ce moment, vraiment, on y va, notamment sur les femmes. Et elle dit « Il y a trois mythes contre lesquels on a du mal à se battre. Hein, et pour défendre les droits, c'est la jeunesse ensauvagée, l'étranger inassimilable, et puis l'assisté. » Et en relisant son bouquin, je me dis, mais elle oublie quand même la femme hystérique, parce que comme elle réclame ses droits, elle est forcément hystérique. Là, il y a un truc. Bon, ça m'a un peu interrogé ça. Et puis oui, il en reste des combats. En tout cas, pour la LDH, le remboursement, par exemple, de la contraception de façon complète, ça, c'est pas gagné. Le développement des services hospitaliers qui pratiquent l'IVG, c'est pas gagné non plus. L'orientation des filles dans toutes les filières professionnelles et dans les formations. L'égalité salariale, alors là, on est toujours à 22% d'écart, hein, quand même. Et puis, une mixité réelle dans les candidatures pour les élections. Donc, il y a du boulot.
Je mène les loups, mène les loups, laissez donc faire. Je mène les loups, mène les loups, loin de chez vous. Je mène les loups, mène les loups, laissez donc faire. Je mène les loups, mène les loups, loin de chez vous.
Voilà qui est dit. C'est ici que notre tour d'horizon sur les droits des femmes s'achève. Un grand merci à tous, Martine, Fabienne, Malika et Sophie, qui est absente, mais s'implique aussi beaucoup pour la cause.
Tous les êtres humains naissent libres et égaux.
Si vous avez des réactions, des questions ou des réponses, écrivez-nous à nantes@ldh-6france.org. Et d'ici la prochaine diffusion, où nous vous retrouverons à 18h30 le mercredi 6 mai, nous vous souhaitons de belles écoutes sur les ondes de Jet FM, la station des droits et des libertés.
Mais... 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 Mais...